Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Tuerie, viol, incendie sont là les mots dont souffrent les populations de l'Ituri. Le député national Jospin Matesso le dénonce et invite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires. L'élu de Djougou l'a dit devant la presse hier à Kinshasa. Et justement, une trentaine d'écoles en difficulté de fonctionnement depuis la rentrée scolaire dans les territoires de Djougou et Mambasa. Nous sommes toujours en Ituri. En cause, l'insécurité causée par les rebelles des EDF, notables et activistes des droits de l'homme, lancent un appel pressant au gouvernement congolais. Et puis, l'invité de ce matin, Maître Olivier Ndoole, avocat au barreau du Nord Kivu, il nous parle de la démarche qu'il a entamée auprès de la présidence de la République pour obtenir la modification d'au moins 5 articles de la loi du 15 juin 2023. À tous et à toutes, bonjour. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri préoccupe le député national Jospin Matesso. L'élu de Djougou dénonce des cas de tueries, de viols et d'incendies dont sont victimes les populations de l'Ituri. S'adressant à la presse mardi à Kinshasa, l'élu de Djougou invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité de la population et de ses biens dans cette province sous état de siège. Le député national Jospin Matesso s'exprime au micro de Michel Kifi.
Le même samedi, les éléments de Codeco ont arrêté quatre fillettes qui étaient de passage par cette route. Après les avoir violées, les ont égorgées. Ont même incendié l'hôpital de référence de Gina, l'unique hôpital qui est dans la région pour intervenir les camps des infections actuels parce qu'il y a une forte concentration de population. Et Gina a été pendant plusieurs heures sous le feu et pillage des biens des populations. Depuis ce matin, on a commencé à découvrir des corps, mais on n'a pas encore le bilan exact de ce massacre. La nuit d'hier, le village de Fata qui a été attaqué, malheureusement, les villageois qui ont été attaqués sont des villageois qui vivent juste à côté des camps militaires des FARDC. En total, il y a eu 10 morts.
Pendant ce temps, le secrétaire général adjoint des Nations Unies a rencontré mardi avant midi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Les deux personnalités ont échangé sur les efforts de paix en RDC, sur le soutien dont la RDC a besoin pour pacifier l'Est du pays, mais aussi sur l'importance de la diplomatie parlementaire dans les efforts communs de recherche de la paix. Le secrétaire général adjoint de l'ONU a rassuré de l'accompagnement de la MONUSCO au gouvernement pour instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du pays. Jean-Pierre Lacroix est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est une conversation très importante où nous avons passé en revue la situation des efforts de paix, le soutien que nous pouvons apporter pour que ces efforts de paix prospèrent. Et nous avons aussi parlé du rôle très important dans ce contexte du Parlement, à la fois par les décisions qui pourront être prises, notamment dans le sens du renforcement de la capacité de la présence de l'État à l'Est, mais aussi du rôle important de la diplomatie parlementaire pour soutenir les efforts de paix, pour les propager, les faire connaître aux populations. La réalité du soutien que nous apportons à la fois aux efforts de paix sur le plan politique, sur le plan opérationnel et aussi à la protection des civils. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont protégées par les Nations Unies, la MONUSCO. Nous sommes très engagés dans ce domaine, les soutiens politiques aux efforts, notamment le processus de Luanda. Pour établir une paix durable, il faut s'attaquer également aux questions socio-économiques et de développement.
Par ailleurs, sachez que le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix a inauguré hier une peinture murale symbolisant la lutte contre la désinformation. C'est en marge de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre de chaque année. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie des Beaux-Arts en présence de la chef de la MONUSCO et de plusieurs autres personnalités. Détails dans ce reportage de Miradim Fouengi, Believe Fataki et Baleka Emanuela.
Prenant la parole à cette occasion, Jean-Pierre Lacroix a expliqué l'importance de l'œuvre d'art dans la communication. Pour lui, les artistes ont toujours su passer leur message à travers leurs œuvres.
La meilleure réponse à apporter à ce fléau, c'est de promouvoir de manière proactive, avec le concours de tous ceux qui peuvent le faire, à la fois un message de paix, le rôle des acteurs de paix et un message d'engagement de tous. Et dans ce contexte, le rôle des artistes est fondamental, il a toujours été. Il y a une longue tradition d'engagement des artistes pour promouvoir la culture de paix. C'est plus que jamais nécessaire en République démocratique du Congo.
Prisca Tonkwei, la conceptrice de cette œuvre, a remercié la MONUSCO pour cette initiative de communiquer à travers une œuvre.
Je voudrais tout d'abord saluer cette initiative qui permet, pour la première fois, on s'intéresse à l'art et on communique, on prend cet art comme étant moyen de passer l'information, communiquer, parce que je pense que dans ce pays, il faut ces genres d'activité qui permet en sorte que l'on comprenne l'art d'une autre manière.
Notez que l'année 2024 marque le 25e anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la déclaration et du programme d'action sur une culture de paix dans le monde.
Je vous l'ai dit dans le sommaire, en Ituri, une trentaine d'écoles primaires et secondaires rencontrent des difficultés depuis la rentrée scolaire dans les territoires de Djougou et Mambasa. En cause, l'insécurité liée à l'activisme des groupes armés, notamment les rebelles des EDF, qui obligent de nombreux enfants et enseignants à fuir leur village. Face à cette situation alarmante, des notables, activistes des droits humains et membres de la société civile lancent un appel pressant au gouvernement pour rétablir la sécurité dans ces zones. Ézéchiel Mouzalia.
La détérioration de la situation sécuritaire depuis environ 2 semaines dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa perturbe sérieusement les activités scolaires depuis lundi 2 septembre, date de la rentrée scolaire en RDC. Sur l'axe Jinafataki par exemple, plusieurs écoles fonctionnent dans une instabilité permanente, menacée par les attaques et provocations des groupes armés actifs dans la région. Un notable de Jina exprime sa vive préoccupation.
Il y a 9 écoles primaires avec 3 écoles secondaires. Une école primaire n'a pas moins de 400 élèves. Une école secondaire, pas moins de 200. Avec ça, nous risquerons de perdre la main.
La situation est similaire dans plusieurs écoles des chefferies de Bangolé, Babila Bakwanza, où certaines institutions scolaires déplacées opèrent à Mambasa Centre, tandis que d'autres n'ont pas encore ouvert depuis la rentrée du 2 septembre en raison des attaques des ADEF. Jospin Mboa, responsable local de la nouvelle société civile congolaise.
Les enfants sont dans le chômage. Ça, c'est vraiment de la responsabilité du gouvernement. Avant la rentrée scolaire, nous avions alerté les autorités sur l'inquiétude que nous avions.
L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, Antenne d'Irumu, exhorte le gouvernement à renforcer la protection des civils et des écoles dans ces zones de conflit. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Du côté du Nord Kivu, toujours pas de reprise des cours dans plus d'une centaine d'écoles primaires publiques de la ville de Butembo. Les syndicats des enseignants, particulièrement le CIECO, disent maintenir la grève jusqu'à ce que le gouvernement réalise ses promesses issues des accords de Bibwa à Kinshasa. Sadiki Aboubakar nous en dit plus.
Alors que la synergie des syndicats des enseignants de la ville de Beni a suspendu sa grève lundi, celle de la ville de Butembo voisine décide plutôt de maintenir son mouvement de grève. Par conséquent, plus d'une centaine d'écoles primaires publiques de la ville n'ont pas ouvert leurs portes depuis le 2 septembre, date officielle de la rentrée scolaire. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue sur place lundi, le syndicat des enseignants du Congo, CIECO, a décidé de maintenir la grève jusqu'à la réalisation par le gouvernement des promesses issues des accords de Bibwa. Dans certains établissements de la sous-division de l'EPST Butembo 1, quelques enseignants se sont présentés ce mardi à l'école, sans toutefois dispenser des enseignements. Le sous-prophète James Katuva, qui le regrette, dit toutefois espérer une reprise progressive des cours au courant de la semaine, signalant que le chef de la division provinciale de l'EPST Nord Kivu 2 multiplie des rencontres avec les syndicats des enseignants de Butembo dans le but de les amener à reprendre le chemin de l'école. La première rencontre s'est tenue lundi en présence de l'autorité urbaine de Butembo. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, quelques maisons de cultivateurs ont été détruites par des éléments des FARDC à Kinyembaore, localité située dans la partie sud du secteur de Rwenzori, c'est à une soixantaine de kilomètres de Beniville. Selon la nouvelle société civile dans la région qui déplore cette situation, les tôles de ces maisons sont utilisées par ces militaires pour construire leurs casernes. Cette structure citoyenne dénonce également des tracasseries aux barrières érigées illégalement par ces militaires aux entrées des localités de Ourara et de Mouloua qui ouvrent la voie aux champs de la population. Contacté, le porte-parole militaire dans la région dit ne pas être au courant de la situation. Le colonel Mac Azoukai indique toutefois que des investigations sont en cours avec les responsables des unités basées dans ces trois localités du secteur de Rwenzori afin d'établir les responsabilités. Restons à Beni. Dans le cadre de son appui à la police nationale congolaise, la MONUSCO a fourni hier 1500 litres de carburant au commissariat de la police ville de Beni et d'Oicha. C'est pour faciliter les mouvements des éléments de la PNC dans ces deux localités et ainsi renforcer la sécurisation des populations pour une meilleure protection des civils. À cette même occasion, la MONUSCO a procédé à la remise d'une importante quantité de vivres à ces deux commissariats de police, notamment du riz, de la farine de maïs, le haricot et des pommes de terre. Autre nouvelle, après l'étape de Kinshasa, les assises de la 8e édition de l'Expo Béton seront lancées ce mercredi à Matadi, chef-lieu du Congo central, par la première ministre Judith Suminwa. Au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur de province, l'organisateur de l'Expo Béton, le sénateur Jean-Bamanissa Saïdi, a fait savoir que cette activité est un salon de réflexion autour des différents sujets ayant trait à la révolution urbaine et des solutions durables de corridors ouest pour Kinshasa et le Congo central. L'objectif de cette rencontre, qui réunit plusieurs scientifiques et experts, notamment dans le domaine de la construction, est de développer le pays avec les villes et entités construites selon les normes requises. Jean-Bamanissa Saïdi le dit dans ses propos recueillis par Nana Pluriche Mambou.
Expo Béton, on est à la 8e édition. Le thème de cette année, c'est la révolution urbaine. Quelle solution durable pour le corridor ouest Kinshasa et le Congo central? Vous savez que le Congo central est complètement lié à Kinshasa et que tout ce qui concerne le développement de l'un ou l'autre doivent se faire ensemble et de façon planifiée pour trouver des solutions pérennes. Donc nous voyons un grand boom vraiment immobilier au niveau de Kinshasa, mais nous disons aussi que le long de cette RN1, le long du rail et à la périphérie de Kinshasa, comme Kasangulu, Kisantu, etc., il est temps de penser à l'extension des villes satellites qui peuvent contenir des vocations différentes, qui peuvent être universitaires, qui peuvent avoir des plateformes formes logistiques, qui peuvent être commerciales, industrielles. Le Congo central a beaucoup d'atouts. D'ailleurs, le ciment est produit au Congo central, n'est-ce pas? Il est tout à fait normal que le Congo central puisse avoir un programme qui va permettre l'investissement de ses infrastructures et de l'habitat.
Et puis, le processus de la mise en place du cadre permanent de dialogue public-privé est déjà en marche. Sa première réunion a eu lieu hier à Kinshasa. Cette structure vise à mettre en place une collaboration entre les centres des petites et moyennes entreprises et l'État congolais en vue d'améliorer le climat des affaires et de booster les recettes publiques. Des détails avec Blaise Ndongala Maenda.
À l'initiative du gouvernement à travers les projets Transforme, ce cadre permanent de dialogue public-privé est conçu pour renforcer la coopération entre les centres des PME et les structures étatiques. Cette initiative s'inscrit dans la vision de soutenir la croissance économique durable du pays en favorisant les échanges ouverts, inclusif et constructif. Ces cadres permanents permettra également aux PME et aux centres de PME qui les réunissent au sein des espaces partagés de travail d'accéder à une plateforme structurée où elles pourront dialoguer directement avec les acteurs publics, notamment les ministères concernés, les agences étatiques et autres institutions gouvernementales. Expert juriste au sein du projet Transforme, Maître Janvier Kiambumbaya est persuadé que le dialogue permanent entre les PME et l'État congolais va faciliter la sainissement du climat des affaires à travers le pays.
Ce cadre est lancé dans le cadre de la mise en place des centres de PME. C'est pour la croissance des PME, pour le développement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo.
De son côté, la chargée des opérations au sein de l'unité de coordination du projet Transform a souligné l'importance de ces dialogues qui, selon elle, va contribuer non seulement à la réduction des obstacles bureaucratiques, mais également à la mise en place d'un climat des affaires plus propice pour les entrepreneurs congolais.
Actualité internationale. Nous sommes au Mali. Le calme est revenu à Bamako, la capitale, après une attaque meurtrière du groupe associé à Al-Qaïda a visé l'école de gendarmerie à Faladié et une base de l'armée de l'air malienne près de l'aéroport Modibo Keïta. C'est nous, les terroristes affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque menée à Bamako en diffusant des images montrant d'épaisses fumées s'élevant de l'aéroport international ainsi que du hangar abritant l'avion présidentiel. Selon plusieurs sources, les assaillants ont mis le feu à plusieurs appareils militaires sur la base 101 de l'armée de l'air malienne située à proximité de l'aéroport.
L'invité.
Nous recevons Maître Olivier Ndoole, avocat au barreau du Nord Kivu. Il nous parle de la démarche qu'il a entamée auprès de la présidence de la RDC pour obtenir la modification d'au moins 5 articles de la loi du 15 juin 2023 portant sur la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Maître Olivier Ndoole en parle à Bernardin Nyangi.
Maître Olivier Ndoole, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous vous êtes adressé au président de la République dans une lettre ouverte où vous demandez son implication par rapport à la loi qui a été promulguée il n'y a pas longtemps. La loi portant protection et aussi responsabilité des défenseurs des droits humains. Qu'est-ce qui ne va pas par rapport à cette loi?
En fait, c'est une lettre. Moi, je l'adresse comme citoyen congolais qui a saisi la Cour constitutionnelle depuis plus d'une année et la Cour constitutionnelle ne s'est jamais prononcée par rapport à la requête liée à les constitutionnalités. Et comme vous le savez...
C'est vous qui avez introduit une requête.
Une requête en inconstitutionnalité par rapport à certaines dispositions, notamment les articles 2, 3, 7, 11 et aussi les articles 26, 27 et 28 de la loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Et c'était bien évidemment en période électorale, c'était de leur droit de suspendre en vertu du principe de l'électoral tient les constitutionnels en étant. Mais depuis que les contentieux électoraux ont été vidés, force est de constater que jusque-là, malgré les caractères d'intérêt public, les caractères, si vous voulez, de protection et de sauvegarde des libertés, la Cour constitutionnelle refuse ou se donne, si vous voulez, le courage beaucoup plus de ne pas se prononcer par rapport à la requête qui la saisisse.
Et qu'est-ce que vous attendez du président de la République?
Comme vous le savez, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et lorsqu'on saisit une cour, et à l'occurrence une cour qui est censée se prononcer à premier et dernier ressort, le seul, si vous voulez, dimension en termes d'espoir que nous avons, c'est que cette cour puisse se prononcer. Et du moment où cette cour fournit un effort pour ne pas nous rendre justice, il s'agit d'un déni de justice. Et du fait qu'il y a plus une autre juridiction sur laquelle on doit introduire le recours, nous avons écrit encore une fois, d'autres organisations ont écrit au premier président de cette grande institution, jusque-là il n'y a pas de réaction, nous avons jugé utile donc de saisir le président de la République pour que quand même le contrôle de la constitutionnalité soit exercé, parce que là était constaté que nombreuses requêtes introduites devant la Cour constitutionnelle ont fourni un effort pour ne pas y répondre et de surcroît les gens restent dans une sorte de déni de justice et puis il n'y a pas un contrôle de constitutionnalité par rapport aux faits qui sont soumis devant cette instance.
Et c'est en début septembre en cours que vous avez adressé cette correspondance. Est-ce que vous rassurez que c'est déjà parvenu à la destination.
Exactement. Comme vous allez constater, il y a l'accusé de réception de la présidence, l'accusé de réception de la Cour constitutionnelle, Conseil d'État, toutes les grandes institutions, même les ministères qui sont concernés, qui ont une incidence sur les droits et libertés publiques en République démocratique du Congo, ont été saisis, y compris la même Cour. Et nous estimons, bien que c'est une question juridictionnelle qui avait été introduite à travers la requête, c'est-à-dire en contentieux, nous estimons qu'à travers toutes ces réunions, cette question aussi a été abordée et nous estimons que la haute cour, c'est-à-dire la cour constitutionnelle, pourra rendre justice à notre requête pour que nous puissions une fois être situés par rapport à la légalité et si vous voulez, l'inconstitutionnalité par rapport à ces articles qui sont contestés.
Ok, alors revenons un peu à ces articles qui sont contestés. À ces articles-là, pourquoi vous le contestez en fait?
Nous le contestons parce que d'abord, quand vous prenez l'article, par exemple, D711, pose des conditionnalités pour être appelé défenseur des droits de l'homme. Quand on met par exemple des conditions telles que un défenseur des droits de l'homme doit s'enregistrer, doit envoyer un rapport à la Commission nationale des droits de l'homme et au ministère de la Justice, cela crée en quelque sorte d'abord des conséquences, c'est-à-dire il y a défenseur des droits de l'homme au niveau rural, c'est-à-dire ceux qui travaillent à plus de 80% sur l'environnement, qui ne savent pas ni lire ni écrire, c'est-à-dire automatiquement déjà ils sont exclus et aussi ils s'exposent à des poursuites judiciaires conformément maintenant aux articles 26, 27 et 28, pourtant dans une législation censée les protéger.
Maître Olivier Ndolé, merci.
Merci.
Voilà, notre invité est avocat au barreau du Nord Kivu et répondait aux questions de Bernardin Nyangi. C'est tout pour ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, Alain Goya, la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la...